Radio B. Résonance. Alain Goudard, bonjour et bienvenue. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Aujourd'hui, Résonance vous propose d'approcher, de pénétrer tout au long de cette nouvelle émission, l'univers musical du compositeur, musicien, improvisateur Guillaume Lacroux. Et puis, dans notre rubrique de Vive Voix, avec Josie Josserand, nous nous interrogerons ensemble à partir des propos d'Edgar Morin, Christian Godin, Malek Chebel sur le vivre ensemble, l'accueil de l'autre, l'hospitalité. Puis, nous aurons le plaisir d'accueillir deux invités au féminin, à savoir à ce micro avec Colline Roger, chef de projet à la ferme, centre hospitalier Le Vinatier à Bron. Et puis nous retrouverons l'une de nos correspondantes en Suisse, Kay Pastor, plasticienne, qui conduit l'action artistique de l'atelier des Mille Feuilles à Genève. De Vive Voix avec Josie Josserand.
L'important n'est pas la communication de l'information, c'est la compréhension d'autrui. Qu'est-ce que l'autre ? C'est celui qui est à la fois différent de soi et semblable à soi. Il est semblable à soi par la capacité à aimer, avoir peur, à souffrir, à être heureux et en même temps il est différent par sa singularité personnelle, par sa culture, par ses croyances. Respecter la différence tout en reconnaissant que l'autre est comme soi, c'est cela qui est nécessaire. À ne voir que sa différence, on ne voit pas que l'autre est comme nous. Et à vouloir la réduire à soi-même, on perd son originalité. Edgar Morin. Dialogue entre le philosophe Christian Godin et Malek Chebel, philosophe et anthropologue des religions.
Christian Godin.
Le mot « hôte » en français désigne à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, mais il vient du terme latin « hostis » qui a aussi donné « hostile » et « hostilité ».
Malek Chebel.
Je connais le cas de l'hospitalité bédouine. Un voyageur est dans le désert, l'hospitalité est la règle à partir du moment où la personne qui va le recevoir considère que si elle ne le recevait pas, il risquait de périr. C'est une forme d'asile archaïque qui remonte aux origines de l'humain face à l'hostilité de la nature. Dès lors que le voyageur ne risque pas sa vie en traversant le territoire, il n'y a pas lieu de préparer un banquet pour lui ni de le protéger. L'hospitalité ne consiste pas seulement à nourrir, mais aussi à protéger. L'hospitalité octroie l'immunité, elle est une assurance vie. L'arabe dit va en confiance ou va en sécurité. C'est seulement alors que vous êtes protégé contre les ennemis, les dangers de la route.
Christian Godin.
L'hôte devient sacré de fait.
L'actualité, depuis plusieurs mois, vient encore plus fortement, voire de manière dramatique, interpeller notre relation à l'autre, à autrui, notre manière d'essayer de comprendre l'autre. Ces quelques propos que nous vous avons proposés dans De Vive Voix, dans cette rubrique, propos d'Edgar Morin, de Christian Godin, Malek Chebel, peuvent peut-être contribuer à nous aider à réfléchir sur le fonctionnement de notre complexité humaine, tout en soulignant que l'unité, le métissage et la diversité doivent se développer contre l'homogénéisation et la fermeture. Le métissage, comme l'écrit encore Edgar Morin, n'est pas seulement une création de nouvelles diversités à partir de la rencontre. Il devient, dans le processus planétaire, produit et producteur de reliance et d'unité. Il introduit la complexité au cœur de l'identité métisse, culturelle ou raciale. Fin de citation. Résonance sur Radio B. Vous venez de découvrir The Music Dissonance de Guillaume Lacroux, le compositeur qui va être notre fil rouge musical tout au long de cette émission. Compositeur lyonnais, jeune compositeur qui déjà s'aventure justement entre les musiques classiques, musiques improvisées, musiques traditionnelles, musiques expérimentales. Donc quelqu'un qui a une très grande ouverture aussi à tout le contexte musical. Et là, nous avons pu découvrir donc The Music's Dissonance, une œuvre composée pour voix de femme et ensemble instrumental, interprétée par l'ensemble Calliope, placée sous la direction de Régine Teodorescu. Alors Guillaume Lacroux, pour situer un petit peu, un compositeur je dirais jeune donc de 1974, guitariste, lapsiste, et Guillaume Lacroux voilà, explore différentes musiques, de la musique ancienne à la musique expérimentale. Il participe notamment justement dans la région Auvergne particulièrement avec différents groupes de musique traditionnelle, de musique française. Et puis, parallèlement à toutes ces expériences, il étudie à partir de 1993 l'acousmatique au Conservatoire national de région de Lyon, puis la composition instrumentale et l'analyse à l'École nationale de musique de Villeurbanne. Et puis ensuite, il continue donc à s'intéresser à l'écriture, à se perfectionner. Et là, ce perfectionnement, il l'effectue au CNSM de Lyon, au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, auprès de deux grands compositeurs français, Jean-Louis Florenz, qui notamment, par toute sa recherche sur le côté ethnomusicologique en lien avec la composition, et puis aussi Robert Pascal, un des grands compositeurs aussi français d'aujourd'hui, responsable de cette classe de composition au CNSM de Lyon. Donc de bons pères, si je peux dire, qui ont entouré le chemin et aiguisé la curiosité de ce compositeur qui est Guillaume Lacroux. Alors il a écrit, et on a pu en entendre, beaucoup de pièces pour la musique vocale, notamment pour voix de femme principalement. Il s'est aventuré aussi dans des pièces radiophoniques. On aura l'occasion tout à l'heure d'entendre justement l'une de ces pièces, et dans l'électroacoustique. Soulignons que Guillaume Lacroux est aussi engagé très fortement dans l'aventure musicale et humaine que mène le collectif La Novia. Alors c'est un collectif qui est basé en Haute-Loire et qui réunit des musiciens professionnels résidant sur un large territoire, puisqu'il comprend l'Auvergne, Rhône-Alpes, le Béarn, le Limousin, les Cévennes et la Franche-Comté. Et ce collectif, c'est un lieu de réflexion et d'expérimentation autour des musiques traditionnelles et ou expérimentales. Et la pluralité de ces acteurs, musiciens, graphistes, enseignants en école d'art ou en école de musique, crée une dynamique et une cohérence esthétique très forte. Résonance sur Radio B. Et là, nous avons entendu une nouvelle pièce pour voix de femme et ensemble instrumental de Guillaume Lacroux, Gold Dance, pour donc toujours l'ensemble Calliope dirigé par Régine Teodorescu. Donc voilà, je trouve une musique vraiment intéressante sur tous les points de vue, sur l'écriture, sur le mariage aussi des styles, pour nous faire penser aussi à certaines écritures, bien sûr de musique française, mais aussi de musique d'Europe centrale. Puis on voit que l'aspect rythmique populaire, tout ça, c'est quelque chose qui questionne de manière profonde Guillaume Lacroux. Alors maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission au téléphone Colline Roger, chef de projet au centre hospitalier Le Vinatier, la ferme Abron. Et Colline Roger, c'est l'une de nos correspondantes régulières dans cette émission. Bonjour Colline.
Bonjour Alain.
Très heureux de vous accueillir à nouveau à ce micro.
Tout à fait, également.
Alors on va plutôt parler dans un premier moment donc de la saison culturelle 2015 à la ferme du Vinatier, qui s'avère d'ores et déjà très riche, originale, et je dirais un petit peu comme vous y avez habitué depuis pas mal d'années le public, et je pense pour son plus grand plaisir. Alors une saison avec des expositions, des résidences d'artistes, de compagnies. On pourra aussi évoquer le festival Au cœur de tes oreilles, manifestation aussi en lien, et ça c'est important effectivement pour la ferme dans son implication et dans sa manière de tisser les projets avec d'autres structures culturelles du territoire, et puis aussi bien sûr des temps forts avec la cité. Alors c'est vraiment un ensemble de très belles propositions ça, Colline Roger.
Oui, alors c'est vrai que la ferme du Vinatier développe depuis 1997 maintenant, oui. Donc tout un programme d'action culturelle donc ouvert sur la cité comme vous le signaliez, et qui permet du coup à des patients de s'intégrer dans des processus de création, d'intégrer également des soignants, et puis d'investir également le public extérieur, c'est-à-dire de faire venir le public à l'intérieur des murs de l'hôpital psychiatrique, et bien sûr de faire sortir les productions créatives des patients dans des structures culturelles du territoire.
Donc on est ça, vous sentez que c'est quelque chose qui aujourd'hui, avec tout ce travail de fond, c'est-à-dire aussi bien le fait que certaines productions puissent aller à l'extérieur, comme vous venez de le dire, ou qu'un public autre puisse venir au sein de l'hôpital psychiatrique par rapport à toute cette proposition culturelle, là aussi on sent qu'il y a un plus au cours de toutes ces années, enfin que vraiment la démarche est acquise, entre guillemets, même si bien sûr il y a toujours un travail important de terrain à mener en permanence, mais comment vous sentez les choses ?
Oui, alors c'est sûr que rien n'est jamais acquis, comme on le disait, et que c'est tout un travail de longue haleine que nous menons donc depuis toutes ces années. Mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir la culture au sein de l'hôpital, c'est quelque chose qui est admis par tous, et la présence et l'implication de nos partenaires, qu'ils soient culturels, scientifiques ou universitaires, permet vraiment cet ancrage dans la cité, dans le territoire, et de permettre de déstigmatiser un petit peu l'hôpital, ses usagers, de changer le regard sur l'institution psychiatrique.
Alors, effectivement, j'ai cité pas mal de, mais on aura l'occasion, pas mal d'actions qui vont se proposer, qui vont être proposées dans les prochains mois et prochaines semaines. Mais peut-être, il me semblait peut-être plus particulièrement intéressant, en tout cas, d'évoquer dans cette première présence dans nos émissions, on refera bien sûr le point à d'autres moments, sur l'exposition Sens dessus-dessous, où là, vous avez réfléchi et travaillé sur les enjeux aujourd'hui dans notre société des vêtements, ce qu'ils représentent tant sur le plan, je dirais, social, des usages, des représentations. De fait, vous vous êtes interrogé finalement sur l'impact aussi des vêtements dans l'institution psychiatrique.
Oui, tout à fait. Alors c'est un projet que l'on travaille depuis un an et demi à peu près, au sein d'un comité scientifique pluridisciplinaire, et qui va interroger finalement l'hôpital psychiatrique aujourd'hui à travers le vêtement. Et qu'est-ce qui fait qu'on porte aujourd'hui des vêtements à l'hôpital, alors qu'on parle bien sûr de blouses de soignants ou de pyjamas de patients, mais qu'est-ce que ces vêtements racontent finalement des personnes qui les portent, qui les habitent, du rapport que l'on peut entretenir aux autres, d'une certaine notion de corporation à laquelle on peut appartenir, d'une stigmatisation également.
Bien sûr.
Voilà, d'un rapport à l'autre, d'une hiérarchie. Et donc, on va questionner un petit peu cet ensemble de choses qui finalement sont toutes focalisées à travers le vêtement. Alors bien sûr, on a une perspective historique, on va s'attacher bien sûr à la place du vêtement dans l'histoire.
Dans la société, dans l'histoire.
Dans la société bien sûr, mais surtout à travers d'autres institutions religieuses, pénitentiaires, etc. Mmh. Et ensuite, on va s'attarder plutôt à la place du vêtement aujourd'hui.
C'est ça.
Voilà. Et qu'est-ce que aujourd'hui ce vêtement raconte ?
Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que on le sait d'une manière un petit peu plus élargie et générale. Donc le costume, finalement, c'est une espèce de discours muet qu'on tient, hein, finalement, face aux autres pour les avertir de ce que je suis, de ce que j'aime, de peut-être de comment je me faufile dans cette société ou de qu'est-ce que j'ai envie de faire passer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et notamment de le voir aussi dans le milieu institutionnel. Là aussi, vous le souleveliez tout à l'heure, le rôle quoi, de qu'est-ce qu'on y met là aussi dans ce rapport-là au niveau du vêtement et dans ces espaces-là, quelle institution ?
Exactement. Et d'ailleurs, dans cette exposition, on va aborder dans l'une des parties ce détournement un petit peu individuel que l'on va retrouver chez tout un chacun, patient, soignant, mais bien sûr qui peut évidemment s'appliquer à n'importe quel domaine de la société civile, c'est-à-dire comment, à partir d'un uniforme, on va essayer de se démarquer de la masse.
Oui, et ça, c'est intéressant quand même, voilà. Hein, dans le milieu institutionnel, où effectivement, il y a une espèce d'uniformité du vêtement qui est souvent voulu, hein, que ce soit pour le patient, que ce soit pour les professionnels. Comment chacun, comme on le disait, vu que c'est quelque chose qui est une manière d'exprimer ce que nous sommes, ou les opinions, ou les manières, bah, peut-être, je dirais, prendre des chemins de traverse, si je peux employer cette expression-là aussi.
Tout à fait, ça fait un lien, effectivement, avec résonance
corporelle. Hein, pour dire, bon, c'est uniforme, mais en même temps, hop, j'amène une petite touche qui me personnalise au travers de cette uniformité.
Exactement, voilà. Et d'ailleurs, on va inviter une artiste qui s'appelle Nadine Laos-Kiliès cet automne et qui va travailler avec les patients notamment, mais également les soignants qui accompagneront ces patients, sur une démarche, on va dire, de personnalisation et d'appropriation du vêtement hospitalier, puisque cet artiste qui est assez spécialisé en art textile notamment, va donner des outils aux patients pour pouvoir... alors, j'aime pas trop ce terme de customiser, mais ça parle bien aux gens. De s'approprier en fait un uniforme, un uniforme hospitalier. Donc, on en a récupéré plusieurs. Et pendant plusieurs semaines, ils vont opérer tous ensemble à la création d'une œuvre collective qui va intégrer cette exposition, donc sans dessus dessous. Voilà. Donc, c'est vraiment une façon de donner la parole aux patients et aux soignants sur finalement ce qu'ils ont envie de raconter à travers cette tenue hospitalière et comment ils verraient une tenue hospitalière rêvée, si on peut dire, ou en tout cas créative.
C'est ce qui aussi sera la matière de départ, je pense aussi pour la compagnie Locus Solus aussi, qui sera aussi en résidence chez vous aussi et qui va travailler à partir de cette idée du vêtement costume.
Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a un fil rouge vraiment autour
tout au long de
ce vêtement à l'hôpital.
Absolument.
Voilà. Et la compagnie Locus Solus, donc à partir de janvier, travaillera, elle, à partir d'un matériau plutôt théâtral avec les patients pour imaginer une création, alors assez libre à partir de cette thématique, qui s'appelle Seconde Peau. Donc travailler comme le vêtement comme seconde peau. Donc c'est des questionnements assez intéressants à soulever. Et puis, effectivement, toujours autour de cette exposition, donc c'est une exposition qui est assez scientifique, mais à l'intérieur même de cette exposition, le public pourra découvrir une installation très ludique. Donc ça, je n'en dis pas trop plus.
C'est
vraiment à découvrir.
Ouais.
Et il aura également la possibilité de découvrir l'exposition avec des guides un petit peu insolites.
C'est ça, il va y avoir des visites singulières.
Voilà. Donc des visites singulières avec des guides qui seront des artistes notamment et qui vont emmener le visiteur avec les mots d'un écrivain, avec avec les gestes d'un comédien, avec différentes possibilités, on va dire, de s'approprier l'exposition différemment d'une médiation classique, d'une visite de groupe. Donc ça, on a essayé de le développer parce que pour nous, c'est une façon de montrer l'exposition sous différents angles.
C'est ça. Voilà. Et puis en plein, il y aura aussi un ciné-débat, il y a une journée de réflexion aussi. Voilà, il y a tout un travail, toute une cohérence finalement autour de cette proposition du vêtement, de cette exposition et de toutes ces manières finalement, comme vous nous l'évoquiez, d'aborder cette question, de la vivre, de la côtoyer et puis aussi que ça soit quelque chose créatif puisqu'on l'a soulevé. Va être aussi un moment d'inventivité aussi à partir de cela.
Exactement. Donc on va imaginer une journée de réflexion qui va permettre d'approfondir certains sujets évoqués dans l'exposition. Et puis un ciné-débat très 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 intéressant au cinéma Les Alizés avec le réalisateur Nicolas Philibert, qui est le réalisateur du film La Moindre des Choses, qui filme très 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 intéressant, très émouvant sur la psychiatrie à la Borde notamment.
Alors peut-être on peut rappeler, Colline Roger, à quel moment sera diffusé ce ciné-débat, à quelle date?
Oui, tout à fait. Alors le ciné-débat de La Moindre des Choses, ce sera le 4 février à 20h30, donc au cinéma Les Alizés, donc toujours à Bron, voilà, qui traite de ce courant de la psychiatrie, psychothérapie institutionnelle, avec la clinique psychiatrique de la Borde.
Et la journée de réflexion,
la journée de réflexion, ça sera le 17 mars.
Voilà, 17
mars. Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale.
Voilà, c'est pour dire, chers auditeurs, du coup, nous avons tout un continuum qui nous est proposé à partir de maintenant et jusqu'au printemps, pratiquement. Puis, bien sûr, il y a d'autres événements, hein, bien évidemment, mais on aura l'occasion d'en reparler à ce micro, Colline. Mais là, déjà, toute une matière très riche, je trouve, pour bien débuter, finalement, cette rentrée. et avec un sujet plus que passionnant. Le vêtement, comme on le disait, il montre, mais en même temps, il cache aussi des choses. Il peut être une parure. Enfin voilà, c'est tout un sujet, que ce soit de l'été à l'hiver et autres, que chacun personnalise au gré. Et ça peut-être donner des envies d'approfondir encore un petit peu plus loin toutes ces questions. Merci, Colline.
Merci à vous. Peut-être juste pour terminer,
évidemment.
Je signale que nous avons donc une première exposition dès la semaine prochaine.
Alors, n'y manquons pas.
Voilà, avec Bernadette d'Agerins pour une exposition qui s'intitule « La longue marche des femmes ». C'est une exposition à base de sculptures qui donne à voir des femmes donc costumées également. Donc c'est des sculptures en terre émaillée. Et puis une exposition photographique Caravelle, donc en partenariat avec notre partenaire du Pôle PIC, donc Centre chorégraphique Pôle PIC Danse Hip-Hop.
Oui, voilà. Là, voilà, un événement important à ne pas manquer, effectivement. Eh bien, voilà. En tout cas, Colline, merci beaucoup, en tout cas, pour de nous avoir déjà mis l'eau à la bouche pour toute cette, toute cette programmation. On y reviendra, bien sûr.
Avec plaisir.
Portez-vous bien.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt.
Au revoir. Résonance sur Radio B. Alors, on vient de l'entendre et on vient de le vivre aussi en même temps. Je vous ai parlé longuement avec Colline Roger donc, de ce qui se passait à la ferme du Vignatier, au centre psychiatrique, mais aussi il se passe plein de choses aussi dans l'Ain, également au centre psychothérapeutique de l'Ain, justement avec Culture Nomade. Et là aussi, on vous invite à suivre sa folle rentrée. Une folle rentrée qui va se dérouler du 12 septembre, donc qui a déjà démarré, et qui donc se développera jusqu'au 11 novembre, avec Mémoire pour tous, rue des Bains au fil de l'eau, vernissage de la fresque picturale en trompe-l'œil du CMP d'Oyonnax, ce mercredi 23 septembre à 17h30, au CMP d'Oyonnax, 15 rue Jean-Baptiste Clément. Et puis aussi également une conférence par Agnès Bruno, journaliste et auteure de Saint-Georges, Sainte-Madeleine, de l'Asile à l'hôpital, aux éditions MG, une parution déjà en 1998, mais qui va pouvoir nous faire part un peu de toute sa manière d'aborder, de retracer justement cette histoire. Et cela aura lieu le jeudi 17 septembre, donc à 18h30, à ne pas manquer donc cette semaine, salle B de l'administration au centre psychothérapique à Bourg-en-Bresse. Et puis enfin encore un autre rendez-vous intitulé « Traces, Sainte-Madeleine, esselée, exposition de photographies d'Hervé Nègre. Sous forme d'un diaporama, Hervé Nègre fait ressurgir l'âme de ceux qui ont quitté ce lieu, découvre au travers des reflets l'abandon, l'oubli, l'effacement des jardins, le retour de la friche, deux mondes réels et irréels. Et vous pourrez donc découvrir cette exposition photographique du 12 au 19 septembre, donc cette semaine, vraiment à tout prix, allez découvrir. C'est ouvert tous les jours de 13h à 18h à l'espace des usagers du centre psychothérapique de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Et enfin, une autre exposition d'œuvres intitulée « À pas de géant », une œuvre monumentale de Nicolas Lavarenne, du 11 septembre, là vous avez plus le temps, jusqu'au 11 novembre, accessible de 10h à 18h dans le parc du centre psychothérapique de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Donc tous ces événements que propose Culture Nomade sont gratuits, ils sont ouverts à tous. Et si vous souhaitez plus d'informations ou réserver des places ou avoir d'autres informations, vous pouvez téléphoner au 04 74 52 24 69, au 04 74 52 24 69.
Commencez par une petite anecdote, une petite histoire de Jean-Baptiste Vovo. Ça s'appelle la douche. Écoutez. D'abord, taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous!
Et que l'on mange de la viande. Prenez du vinaigre, de l'huile, des œufs, vous les battez, et vous pouvez rajouter à cela de la bière. Dans la choucroute, la bière, c'est bon.
Ce n'est pas juste!
Ou parfois du vin. Le vin aussi va dans certaines régions. Dis donc, est-ce que tu peux me regarder l'heure, s'il te plaît?
10h10.
D'accord, super.
Plus c'est les bon, ongles, d'accord. Plus les voilà. Oui. Alors, où j'en
sens que je suis.
Oh, quel sauvage. Philippe.
Là, en bougeant, avec le texte, et donc la grandeur des mots, c'est quand même tout petit, et bien j'arrive plus à capter quoi.
Écoutez.
C'est les arbres.
Écoutez.
Il y a 5 ans, je pouvais le faire normalement.
Je reprends.
Car devant vous, je joue aussi.
Ah, merci. Changé depuis que j'ai écrit cette phrase.
Résonance sur Radio B. Voilà, je vous l'avais promis, le fil rouge, c'est Guillaume Lacroux. Et avec Guillaume Lacroux, eh bien, on s'aperçoit qu'il aime beaucoup la voix. On voit aussi qu'il s'aventure dans toutes les facettes de la voix. Et puis, avec la pièce que nous venons d'entendre, il nous emmène dans toute autre direction, même s'il y a bien sûr toute une continuité. Alors là, nous avons pu découvrir une pièce qui est extraite de tout un ensemble de pièces qui s'intitule « La journée 0901 ». Voilà, ça c'est cette pièce de Guillaume Lacroux et qui, j'espère, là du coup, vous donnera envie d'en découvrir plus. En tout cas, vous en aurez l'occasion, puisque dans l'une de nos rubriques consacrées justement à des formes d'entretien, nous aurons l'occasion justement de pouvoir plus longuement converser, écouter la musique de Guillaume Lacroux. Voilà, et dans cette dernière partie de notre émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une autre de nos correspondantes, Kay Pastor, qui elle anime l'atelier des mille feuilles à Genève, et que nous sommes très heureux là aussi d'accueillir à ce micro. Bonjour Kay.
Bonjour Alain.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors Kay, peut-être, je pense que certains de nos auditeurs s'en souviendront, mais au cours des saisons précédentes, on a eu l'occasion de vous accueillir plusieurs fois dans nos émissions, et notamment pour évoquer la mise en place d'un projet qui consistait à former des personnes en situation de handicap à devenir des médiateurs pour des expositions picturales, en tout cas des médiateurs au sein de certains musées genevois. Alors peut-être on pourrait se dire... où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet après ces 2-3 ans maintenant d'expérimentation?
Eh bien oui, le projet va très bien, il avance dans le sens où c'est deux personnes qui ont été formées.
C'est ça.
Donc ce sont deux personnes avec un handicap mental.
Mm-hmm.
Elles ont terminé leur formation. Et elles sont actives maintenant en tant que médiateurs culturels auxiliaires dans notre programme qui sillonne tous les musées municipaux de la ville de Genève.
Et ça, c'est un grand avancement parce que effectivement, à l'époque, quand nous avions évoqué justement ce projet, sa mise en place, toutes les phases qui allaient contribuer à sa mise en place, on était dans quelque chose de complètement novateur sur ce principe-là.
Oui, c'est cela. Alors, on est vraiment très, très content et assez fiers même d'avoir réussi à donner les connaissances nécessaires et les compétences à ces deux personnes qui sont vraiment à même d'assister dans l'accueil de groupes de personnes. Alors, c'est pour l'instant surtout des groupes de personnes avec handicap mental qui viennent à nous visiter.
Mmh.
Et puis maintenant, la prochaine étape serait de recevoir des groupes tout confondus.
C'est ça.
Voilà, donc des personnes ordinaires mélangées à des personnes autres, afin que nous puissions profiter des points de vue très particuliers de
Bien
chacun.
Sûr. Alors ça veut dire que du coup un musée par exemple de Genève prend contact avec vous et vous dit bah voilà, nous on serait partie prenante d'avoir un certain nombre de visites tout au long de notre saison à destination de ces publics, et à partir de là vous effectuez ce travail. Comment un petit peu la chose s'organise, je dirais, avec ces musées, ou comment se formule en tout cas la demande et après la mise en place finalement de ce service de médiation culturelle?
Oui, alors je crois que nous sommes là actuellement dans une phase un petit peu de transition.
Oui.
Puisque jusqu'ici, nous étions en lien avec le département de la culture de la ville de Genève,
mm-hmm.
qui soutenait le projet, expérimentale, hein,
bien sûr,
qui et nous mettions en avant un programme de entre 6 et 10 visites tout au long de l'année.
D'accord.
Donc c'était relativement restreint, si vous voulez.
Oui.
Et nous pensons maintenant pouvoir nous adresser non seulement aux musées municipaux, mais aussi aux musées privés. Donc on en a un certain nombre dans notre région. Mmh. Et puis nous sommes à même maintenant, puisque toute l'infrastructure a été mise en place et testée depuis 5 ans, et on peut répondre,
voilà,
comme vous le dites, on peut répondre à des demandes qui viennent tantôt des musées municipaux, tantôt maintenant de musées privés, sans que cela soit déjà inscrit dans un programme de visite.
C'est ça. Et du coup, comment peut-être ces différents musées qui vous ont, dans lesquels en tout cas a pu s'expérimenter tout ce processus, comment réagissent-ils par rapport à cette présence ? Est-ce que ça a changé aussi quelque chose dans leur manière aussi d'effectuer leur travail de médiation ? Qu'est-ce que ça a pu faire changer de fait de la présence de ces médiateurs singuliers au sein de leur musée ?
Oui, alors je pense que ça... nous avons pu prouver qu'il y a vraiment un intérêt pour tous à ce que le public soit le plus diversifié possible et que les personnes vivant avec un handicap mental ont vraiment une richesse à contribuer avec leur point de vue souvent étonnant, surprenant et différents, et amener ceci à un corpus de points de vue. Donc, je peux citer l'exemple de notre musée d'art et d'histoire.
Oui, tout à fait.
Qui a engagé tout récemment une personne responsable de l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors ça, c'est vraiment un avancement.
Bien sûr.
Un nouveau titre, si vous voulez, qui n'existait pas jusque-là. Donc, nous allons, à mille et une feuilles, pouvoir contribuer en amenant notre expérience et en faisant des collaborations avec ce musée et cette personne dont c'est le travail.
Absolument.
D'accueillir... public.
Oui, comme on va le trouver, effectivement, côté français, un certain nombre de musées maintenant aussi ont pris en compte ces dimensions. Alors pas sous le sens, et je trouve que ça serait intéressant que ça puisse aussi justement se propager et s'aimer aussi de notre côté de la frontière voisine avec la Suisse, ce fait de médiateur culturel assumé, porté par des personnes en situation de handicap, mais c'est vrai que plusieurs maintenant musées ont ciblé un personnel précis pour justement travailler sur l'accessibilité, l'accès au contenu, la médiation culturelle, et effectivement vous avez raison, c'est quelque chose d'extrêmement important, et je crois que c'est déjà une plus-value importante qu'a apporté le projet, en tout cas côté Suisse et à Genève, le fait que certains musées maintenant, genevois, officialisent la place d'un responsable, en tout cas d'un personnel précis, pour développer ce type d'accueil. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, dans certains musées privés, on va pouvoir aller avec notre équipe, donc constituée de personnes handicapées, et puis accueillir des visiteurs.
Donc, et alors, du coup...
vraiment très content.
Ah, j'imagine. Est-ce que vous savez si on évoquait impression côté du personnel, côté du musée, qu'est-ce que ça fait peut-être évoluer et changer ? Est-ce que vous avez pu mesurer dans quelle mesure d'avoir ce type de proposition de médiation a pu permettre maintenant à ce que ces musées aient une fréquentation plus importante de personnes en situation de handicap ? Est-ce que ça, c'est un facteur sur lequel on peut avoir une vision précise, à votre avis, est-ce que ça a provoqué une affluence un petit peu plus importante, de fait, qu'il y ait une qualité de médiation proposée vis-à-vis de ces publics ?
Oui, alors on voit qu'on arrive à fidéliser, même assez facilement, à fidéliser ce public en situation de handicap, notamment les personnes avec un handicap mental. On a des personnes qui sont venues pour la première fois il y a quelques années. C'était la première fois qu'elles mettaient le pied dans un musée. Et puis, elles sont venues à un certain nombre de musées. Et on voit maintenant qu'elles aiment beaucoup aller se rendre au musée seules, de façon tout à fait autonome. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de...
Ça, c'est aussi
bien.
Important, effectivement, de pouvoir faire qu'à un moment donné, l'autonomie de la personne, l'accompagnement qui a été proposé permette celle-ci, et que du coup, ouvre des envies de se rendre, effectivement, au musée quand elle le souhaite, finalement.
Hein? Voilà. Et pour des personnes qui ont moins d'autonomie, alors on voit aussi qu'il y a certaines institutions qui se sentent probablement rassurées par cette... cette infrastructure et qui ont pris l'habitude de venir nous rejoindre au musée.
Oui, c'était un petit peu la question que j'avais envie de vous poser. On évoquait de la part du musée, de son fonctionnement, de qu'est-ce que ça provoque, le fait aussi que ça peut peut-être inciter plus de personnes en situation de handicap à se rendre au musée. Et à fortiori de l'autre côté, c'est-à-dire du coup des acteurs du médico-social et de la santé, le fait d'avoir la connaissance d'un tel dispositif, ça a changé aussi des choses pour le regard pour eux?
Oui, alors je le crois parce que je pense que c'est assez difficile pour les encadrants qui sont formés, ce sont des éducateurs. Ils n'ont pas forcément une formation dans la matière qu'ils rencontrent, le contenu qu'ils rencontrent au musée. Donc c'est vraiment très utile pour eux de pouvoir collaborer avec quelqu'un qui connaît vraiment très bien le contenu de ce qu'ils vont visiter. Mais non seulement de connaître le contenu, mais de savoir comment l'expliquer ou comment permettre à leur groupe de rentrer en relation avec la chose exposée.
Et là, vous avez aussi un travail de concertation, de retour éventuellement avec certaines de ces associations, de ces institutions qui ont participé ou qui aimeraient participer?
Oui, alors... Il semblerait que le résultat soit vraiment positif.
Eh oui, j'imagine.
On a des remarques qui sont, je dois le dire, la plupart du temps vraiment...
Très positives.
Positives, voilà, en toute...
Non, c'est important de le souligner, absolument.
C'est ça, c'est qu'on passe de la visite du musée qui se fait un dimanche de pluie parce qu'on ne sait pas où aller.
Il n'y a peut-être pas autre chose à faire, voilà.
Voilà, c'est ça, donc d'une visite comme ça de loisirs à des visites où il se passe vraiment des choses extrêmement plaisantes, qui fournissent du plaisir, des souvenirs, voilà.
Qui donne envie peut-être d'y revenir aussi.
Exactement,
et de revivre. Hein, voilà, c'est ça. Ce qui nous questionne après sur ce que doit être le musée finalement, quelque part.
Voilà. Hein,
c'est une manière aussi, au travers de votre initiative, de la place de ces médiateurs aussi également, ça réinterpelle l'institution musée, ses fonctions, son rôle. Qu'est-ce que peut être aujourd'hui le musée et qu'est-ce que peut être le rôle d'un musée aujourd'hui?
Absolument, ouais, tout à fait. Et nous avons toujours mis le plaisir au centre de notre projet. Donc on a démarré là-dessus, procurer du plaisir à des personnes qui ont de la difficulté à entrer en relation avec les choses exposées. Comment faire en sorte qu'elles entrent en relation et que cette relation leur fournisse du plaisir.
Alors on peut rappeler, vous l'avez évoqué, Kay Pastor, que la ville de Genève et notamment le département de la culture donc a été très impliqué hein, au départ de cette action. Je pense notamment à une des responsables, une des actrices importantes du service, Jeanne Pont, et Véronique Lombard également, oui, hein, sur deux femmes très convaincues, en tout cas très fortement convaincues de ce travail, de cette nécessité de l'implication des services culture d'une ville comme celle de Genève. C'est vrai que c'était un élément aussi facilitateur lorsque la collectivité, notamment donc la ville en tant que telle, ait saisi toute l'importance et a accompagné de manière forte le projet dès le départ.
Voilà, c'est cela. Donc nous avons vraiment construit le projet ensemble. Sans ce soutien, cela n'aurait vraiment pas été possible.
Voilà, c'est ça. Et on voit bien que là, c'est extrêmement important aussi. À un moment donné, l'investissement de la collectivité, oui, pour franchir aussi un cap, pour pouvoir aller plus loin aussi également, parce que là, l'enjeu est important et est fort. Donc, sans effectivement une collectivité pour soutenir une telle initiative, je crois que ça aurait été très difficile.
Oui, 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 absolument. Et un grand merci à ces personnes et puis
tout
au département qui a rendu tout cela possible. Ouais.
Sans dire, Kay Pastor, ce que sera l'avenir, mais vous sentez en tout cas, est-ce que par exemple d'autres personnes en situation de handicap auraient envie de devenir des médiateurs culturels et rejoindre une formation ou un complément de formation ou une mise en route d'une formation?
Mais oui, j'ai plusieurs personnes qui attendent de pouvoir suivre une formation. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que chaque personne en situation de handicap a ses compétences propres à proposer. Et que donc on travaille en équipe et que chacun, selon ses compétences, va se charger d'une partie du dispositif de la visite. Et donc, plus nous pouvons former des personnes en situation de handicap, plus notre équipe sera dotée de compétences diverses.
Et est-ce que Kay Pastor, c'est quelque chose, à votre regard, peut-être sur le côté suisse romande, mais peut-être que sur la Suisse alémanique ou le Tessin, vous avez pu également remarquer ou observer peut-être des embryons d'initiatives similaires ou ça reste vraiment quelque chose aujourd'hui encore de novateur, on le disait tout à l'heure.
Non, alors je vois qu'on est vraiment inscrit dans un mouvement général qui ne se passe pas que dans notre ville, mais qui se passe dès que cela peut se passer, donc avec un soutien politique et puis des personnes qui sont à même d'amener les bonnes compétences, cela se passe. Il y a un projet à Berne, par exemple, au musée Paul Klee, qui a commencé à peu près en même temps que nous il y a 5 ans et qui se développe et qui suit à peu près le même développement que nous. Donc c'est aussi très agréable d'être, sentir qu'on est pris dans un mouvement un peu général comme ça.
Reste donc, et peut-être on aura l'occasion d'en reparler, peut-être qu'on pourra de ce côté de la frontière essayer de faire aussi que des personnes en situation de handicap mental, par exemple, puissent devenir aussi des médiateurs culturels au sein de certains musées français cette fois-ci, et que donc du coup puissent justement, dans le cadre de ces relations franco-suisses, peut-être s'imaginer un jour une formation partagée qui permettrait que certaines personnes, en tout cas de ce côté, soit de la Haute-Savoie ou soit de l'Ain, ou d'ailleurs, puissent aussi devenir des médiateurs culturels à ce moment-là. Là, peut-être que là aussi, ça serait une manière de pouvoir poursuivre et de travailler ensemble également à l'échelon de ces deux territoires.
Et ça serait aussi formidable parce qu'on pourrait demander à nos médiateurs en situation de handicap d'amener leur expérience et de devenir formateur.
Tout à fait, absolument. Et ça serait quelque chose de très important, me semble-t-il. Très bien, merci beaucoup, Kay Pastor.
Merci beaucoup, Alain.
Merci pour ces nouvelles. Merci, bravo aussi pour cet engagement déjà sur 5 années d'un projet complexe, pas tout simple à conduire, mais ô combien pertinent et majeur. Donc, on aura l'occasion, bien évidemment, de continuer à suivre, hein, puisque c'est la vocation aussi de cette émission, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être un grand amphithéâtre à ciel ouvert, donc d'être à l'écoute de tout ce qui se passe aussi sur le terrain. À très bientôt, ok, alors.
Alors, à bientôt, avec plaisir.
Merci. Résonance sur Radio B. Eh bien voilà, c'est la fin de cette nouvelle émission. Je tenais à remercier Josy Josserand de m'avoir accompagné dans cette émission, ainsi qu'à Simon Deborne, à la technique et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez, comme d'habitude, podcaster, réécouter cette émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de votre radio préférée qui est Radio B, www.radio-b.fr. Voilà, merci de nous avoir accueillis chez vous. Que cette journée vous soit douce et à bientôt.
L'artiste de la semaine sur Radio B, c'est Patrick Fonte. Avec Philippe Val au sein du duo Fonte et Val, ils furent le couple de chansonniers les plus reconnus que la France ait connus entre 1977 et 1996. À la fois grossier, à ne pas confondre avec vulgarité, sensible et à un humour parfois en dessous de la ceinture, Patrick